I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et bonsoir les amis, c'est un Capture Mag bonus. Un bonus avec trois magnifiques bonus. Nous avons Julien, bonsoir Julien.
Bonsoir David.
Nous avons Rafik, bonsoir ma poule.
Salut David.
Et nous avons Arnaud Bardas.
Bonsoir David.
Ouais, les fouilles sont en délire, il a réussi à prendre un avion et à nous venir nous voir. C'est quand même magnifique.
Voilà. Là, les gens voient pas à quel point il est beau.
Et bronzé. Et svelte. C'est assez extraordinaire.
Bon, de... Arrêtez là parce que je vais finir par me toucher moi-même.
Je crois que tu peux. Et donc ce soir, c'est un podcast bonus et je vais mettre de la musique adéquate au bonus. C'est donc sur le thème de King Kong de Mark Steiner.
Mark Steiner.
Max Steiner. Oh, le prénom, j'y arriverai jamais. Que nous allons parler du roman de Michel Lebris, Kong, paru chez Grasset l'été dernier, je crois. Non ? Là, ces derniers jours, à la rentrée. Mmh. Très bien. C'est un des livres de la rentrée littéraire. Mmh. Formidable.
Et musique de Max Steiner, on peut préciser éventuellement qu'elle est quasiment à la fondation même de l'idée de musique de film telle qu'on se la fait aujourd'hui.
Oui, car ce film ne date pas d'hier.
Il date de 1933, et avant cette date-là, la musique de film n'avait pas forcément l'allure qu'on lui donne aujourd'hui, notamment en termes de musique extra-diégétique, notamment en termes de construction opératique avec des leitmotivs et tout ça. Et c'est basiquement Max Steiner qui a mis en place toutes ces règles sur ce film-là.
La création de la musique de film prend au moins 2-3 pages dans le roman et c'est littéralement épique.
C'est vrai, et la musique, je vous recommande de l'écouter, elle est formidable. Rafik, dis-moi si je me trompe, Korngold n'avait pas fait des choses un peu avant ou à la même époque
Non, Korngold a suivi en fait.
C'est après.
Ouais, il arrive après.
En fait, je connais pas bien cette période.
Il arrive en 1935, je crois, avec Captain Blood. Enfin, il y a Le Songe d'une nuit d'été avant, mais ça, c'était un opéra au départ. Enfin bon, bref, on va pas se perdre là-dedans. On fera un podcast spécial un jour.
Oui, je crois.
Musique de film pour les vieux.
C'est ça. Je crois qu'il va falloir le faire. Donc.
Bah, c'est-à-dire musique de film pour les vieux, mais à l'image de tout le film, on comprend dans le roman aussi que c'était des formidables expérimentateurs qui étaient en train de tout bousculer, quoi.
Ouais. Un game changer.
Voilà, exactement. Mais le truc, après, c'est vrai qu'on a peu l'habitude de parler de bouquins et surtout de romans.
Oui, parce que là, c'est un roman.
Voilà, dans Capture. Et là, on a voulu faire ça parce que c'est un bouquin, moi, à mon sens, qui détonne totalement dans le paysage littéraire français. Mmh. Je pense qu'on peut parler de chef-d'œuvre, quoi. Et de romans comme on en voit très peu sortir en France, quoi.
Donc tu l'as lu.
C'est un gros pavé, hein, 900 pages, faut se lancer dedans.
J'ai pas lu moi personnellement.
Mais une fois qu'on est lancé dedans, ça se lit quasiment tout seul. C'est un immense roman d'aventure. Donc je vais pitcher un petit peu quand même le truc pour ceux qui connaîtraient pas.
Serait bien.
Voilà, le roman s'appelle Kong, mais en fait il raconte la vie et l'amitié de Ernest B. Chodzak et Marianne C. Cooper. Donc les réalisateurs du film de 1933. Donc on pouvait ne pas être sans ignorer qu'ils avaient une vie mouvementée, une vie d'aventurier. Mais à ce point-là, c'est quasiment... moi, j'ai halluciné à chaque page. Quoi.
Alors Arnaud, permets-moi de te poser la question. Est-ce que le roman est inspiré de faits réels?
Oui.
C'est
oui.
ça.
Oui.
C'est l'intérêt, c'est que c'est inspiré
c'est
de leur
écrit,
vie.
C'est écrit sous forme romanesque, mais il y a un énorme travail de recherche derrière.
10 ans, je crois, une dizaine
d'années à peu près. Et pour en avoir parlé donc, avec Michel Lebris, que j'ai interviewé pour un épisode de Beats, qui s'appelle Kong. Oh, comme c'est mystérieux.
Il est sorti récemment.
Oui, tout à fait. Il a été jusqu'à se bouffer, je crois, 2 ou 3 ans de quotidien new-yorkais, page par page, pour retrouver absolument toutes les anecdotes, les recouper, s'imprégner de l'époque.
Un véritable travail de titan.
Et il est allé rechercher dans des archives en Pologne. C'est un boulot d'enquêteur au départ.
C'est génial.
Et ce qu'aucun journaliste ciné n'a le luxe de faire, en fait, quand on écrit des bouquins sur des réalisateurs, de passer comme ça 10 ans de sa vie à aller chercher aux quatre coins du monde tout ce que tu peux trouver pour reconstituer leur parcours incroyable.
Et effectivement, donc leur parcours incroyable, parce que donc pour résumer rapidement, ce sont deux hommes qui se sont connus et qui sont devenus amis dans les tranchées de la guerre de 14-18, où ils ont été très actifs. C'est dépeint au début du bouquin. C'était pas des enfants de cœur. Pour résumer rapidement, il y en avait un même, Marion C. Cooper, qui était un as de l'aviation, qui a fait plein de missions suicides très dangereuses en tout cas, et qui a descendu un paquet d'avions ennemi. Donc ils se sont connus là, et après ils vont vivre une vie d'aventurier jusqu'à arriver à Hollywood, mais une vie d'aventurier complètement, enfin on pourrait faire 10 films avec ça, quoi. C'est les gars, ils sont allés ils ont vécu la guerre russe, et quand je dis ils ont vécu, c'est de l'intérieur vraiment, quoi. Ils ont vécu la guerre russo-polonaise, les massacres de Smyrne avec le génocide arménien sous leurs yeux,
sachant que Marianne Cooper est considéré comme un héros en Pologne. Il y a une statue érigée à son effigie, puisqu'il avait monté l'escadrille Kościuszko, qui était justement cette escadrille non officielle, c'est-à-dire qu'il n'était ni polonaise ni américaine, faite de gars comme lui, de tarés de l'aviation, qui allaient bombarder les camps de travail forcé des Russes. Là.
Tout à fait. Oui, et puis il a même fait, Marion C. Cooper, il a été dans des camps de prisonniers, je crois qu'il s'est retrouvé aux frontières de la Sibérie, ou un truc comme ça. Il s'en est évadé plusieurs fois. Donc je vous disais, oui, ils ont assisté au génocide arménien à Smyrne. En tout cas, c'est Shotsak, je crois, qu'il y assiste dans la scène et qui est traumatisé à vie parce qu'il voit des enfants jetés dans le port, brûlés, cloués sous les portes. Enfin, c'est horrible ce qu'ils ont traversé, vraiment horrible. Ils sont allés en Abyssinie, en Iran, dans la jungle du Siam, au Soudan, enfin partout.
Soudan, sous une insurrection.
Voilà. Il y a des scènes dans le bouquin, mais par exemple, où ils arrivent à convaincre 5000 guerriers. Je sais plus dans quel pays d'Afrique noire, de charger devant leur caméra, parce qu'évidemment, le Shotsak, lui, est là avec sa caméra et filme tout à chaque fois. Cooper est celui
C'était un reporter ? C'était un cinéaste.
Un caméraman.
En fait, c'est le personnage du film de King Kong.
Oui, les deux sont dans le film. Complètement. Il avait commencé à filmer dans les tranchées de 14-18, en fait.
Et donc, ils avaient réussi, je disais, la scène est hallucinante, où ils reconstituent comme ça une charge de 5000 guerriers qu'ils essaient en plus de trouver des angles tout le temps novateurs, quoi. Par exemple, il y a un moment, je crois que c'est dans la jungle de Siam, ils arrivent à reconstituer une charge d'éléphant, ils prennent des risques ahurissants, Shotsak se met dans une fosse sous terre pour que les éléphants lui passent au-dessus avec la caméra, et c'est d'ailleurs
c'est dans le film Chang qu'on voit cette séquence.
Oui, c'est ça, je crois.
La charge des éléphants, elle est effectivement impressionnante.
C'est dans ce film-là aussi, je crois, où il y a la scène avec le tigre, non?
Il a failli se faire bouffer par
un tigre, pareil, toujours en cherchant des axes de caméra.
Tout à fait. Et Shotsak, dans cette scène, il était perché dans l'arbre, avec le tigre qui essaie de l'attraper, et qui est les spectateurs avait été effrayé par ça, parce que le tigre est sur la caméra et l'autre il manque d'y passer. Mais t'as cette phrase dans de Cooper dans le bouquin qui est géniale, où ils sont en plein truc de d'éruption créative, quoi, et ils voient comment ils vont tourner la scène des éléphants, et Cooper dit: une caméra placée sous leurs pieds, c'est qu'il s'agit d'y aller à coups de massue, pas de quartier, que le spectateur à la sortie ne sache même plus où il est. Et ça, c'est vraiment cette manière de faire du cinéma, c'est du jamais vu à l'époque. Quoi. Les gars, ils sont vraiment, enfin, c'est l'équivalent de Cameron peut-être à l'heure actuelle. Quoi.
C'est intéressant ce parallèle parce que ce sont des aventuriers, c'est des explorateurs littéralement qui allaient chercher en fait aux quatre coins du monde à une époque en fait finalement où il y avait encore des terra incognita en fait sur la planète.
Grande époque.
Et ils allaient chercher et emmener avec eux les spectateurs de l'époque dans ces terres jusqu'à présent inconnues. Enfin.
Et surtout, ils ont retiré. Enfin, ils étaient obsédés par l'idée de capturer quelque chose en fait, et ça traverse évidemment tout le bouquin, et ça c'est ce qui va mener à King Kong. C'est que ils ont, comme le rappelle Arnaud, ils ont vécu des choses absolument atroces, mais en même temps
atroces et magnifiques
en même temps magnifiques, voilà, exaltantes. Ils ont fait preuve d'un courage insensé en sauvant des vies humaines et assisté à des massacres abominables.
Ils ont tué des gens aussi, eux-mêmes.
Ils ont bien sûr, notamment dans l'évasion de Marianne Cooper, il a bien été obligé de se débarrasser de ses gardiens. Tout ça, en fait, leur a fait toucher du doigt quelque chose qui a trait à l'expérience humaine et qui n'arrivait pas à trouver vraiment dans leurs documentaires. C'est-à-dire, les documentaires à l'époque, on l'a oublié, ont été d'énormes succès. Grâce, le premier qu'ils ont fait, où ils suivent cette caravane hallucinante sur les montagnes enneigées de je sais plus combien de milliers de
mètres d'altitude,
hein. Voilà, de personnes.
Ça aussi, ce passage était
quand complètement... ils traversent le fleuve et préviennent avant de traverser le fleuve, ils savent à peu près combien d'entre eux va mourir en fait quand tellement le fleuve est dangereux. Et tu le vois à la caméra, hein, tu vois les corps qui sont emportés par
etc. Et les guerriers s'en foutent complètement. Ouais. Enfin, c'est pour eux, ça fait partie de leur vie. Quoi.
C'est leur quotidien. Ils savaient que c'est les risques à prendre. Bref, ils ont vécu tellement près de ce truc, ce que Michel Lebris appelle le cœur noir du monde, en fait, qu'en fait, ça les rapproche énormément des personnages du roman de Joseph Conrad, Au cœur des ténèbres, qui remontent comme ça le fleuve à la recherche d'une source, de quelque chose qui a trait à leur humanité, en fait.
Voilà. Alors, ce qui est génial dans le bouquin, ce que tu vois bien, c'est qu'au début, on voit peu à peu, et ça, c'est prodigieux de la part de Lebris, parce qu'il pose ces trucs peu à peu dans l'intrigue, mais au début, il y a une volonté de ramener des images de l'autre bout du monde, une volonté d'aventurier, et peu à peu, à travers cette expérience là et tout ce qu'ils traversent, qu'on a cité, ils vont effectivement entreapercevoir ce cœur noir du monde et en vouloir donner la retranscription. Et peu à peu, on va voir qu'ils vont prendre conscience que tout ce qu'ils ont fait dans le domaine du documentaire, ils ne vont pas arriver à faire ça. Et ils vont peu à peu, et notamment la rencontre avec Willis O'Brien va être très, très importante, ils vont peu à peu réaliser que le meilleur moyen, c'est par la fiction, et pas de créer des images sorties de nulle part, totalement inédites, du jamais vu, et que c'est ça qui leur permettrait d'arriver à toucher cette chose intangible, cette chose qu'on n'arrive pas vraiment à cerner, quoi. C'est de là que...
Et c'est effectivement la naissance progressive de King Kong. Enfin, on voit le roman est effectivement bien écrit de cette façon-là, où tu vois les éléments posés les uns après les autres qui vont finir par créer cette figure archétypale qui a parlé à tout spectateur.
L'un des rares grands mythes modernes,
disons. Moderne, voilà. Et comme tous les mythes, comme les vrais mythes en tout cas, il renferme en lui quelque chose, comme tu le dis, d'insaisissable et d'extrêmement complexe qui a trait à la nature humaine.
Il y a un passage magnifique, un petit paragraphe, je vous le lis dans le bouquin justement là-dessus. Quoi. C'est Marianne C. Cooper qui parle encore et il dit « Un mythe, reprit-il, surpris par ses propres pensées, en se demandant comment cela pouvait s'accorder à son souci tant de fois affirmé du réel. » N'était-ce pas les mythes, dans le fond, qui menaient le monde, soudaient les hommes, les faisaient se sentir plus vastes qu'eux-mêmes, aussi vastes que l'univers ? N'était-ce pas eux qui les soutenaient dans le noir, les guidaient quand tout venait à manquer ? Il hésita. Men ? Non, ils disent le monde. Voilà, et je pense qu'ils sont arrivés à un point dans leur parcours où le cinéma, et ce qu'ils étaient en train d'en faire eux, parce que ça n'existait pas avant, le cinéma devenait la meilleure manière possible de dire le monde, quoi, à travers le mythe dont ils accouchaient.
C'est toujours le cas.
Et non, mais d'autant plus que je pense que, j'en ai parlé avec lui, du statut du film King Kong, qui est quand même un statut extraordinaire.
Tu as parlé avec Michel Lebris ?
Oui.
Oui, puisque j'ai fait, comme je te l'ai dit...
Non, mais tu aurais pu parler avec les créateurs de King Kong, mais tu n'es pas si vieux que ça, finalement. Voilà.
Puisque c'est probablement le plus grand classique officieux. C'est-à-dire que c'est un film que tout le monde connaît, qui est probablement le plus ancien des films encore regardables pour un public familial aujourd'hui, c'est-à-dire que il traverse les âges et il continue à frapper l'imaginaire de ceux qui le découvrent. Il y a aucun film des années 30 qui fait encore cet effet-là, il faut être clair, quoi. Et malgré ce statut...
Le Magicien d'Oz.
Oui, plus difficilement que Kong, à mon sens. Et malgré ce statut immanquable dans l'histoire du cinéma, la critique, le monde de l'académie n'ont jamais réussi à se poser sur ce truc-là. Lorsque un journaliste français dans les années 60, par exemple, annonçait à ses collègues, je sais plus le nom hélas du journaliste, ça va me revenir, un gars de Midi Minuit, qu'il allait interviewer Marianne Cooper, avec joie, ses collègues lui répondaient, mais pourquoi faire? Ça en était à ce point-là, c'est-à-dire que quel intérêt d'où on s'intéresse à ce personnage et à ce film, quoi. King Kong, c'est un truc qui est là et que personne ne questionne. Et d'une certaine façon, ce bouquin, il fait ce travail qui n'a finalement jamais été fait, quoi.
Alors, tu as interviewé Michel Lebris, toi aussi, Arnaud, tu as interviewé.
Non, je l'ai pas interviewé. J'ai pas eu cette chance-là.
Mais par contre, vous n'avez pas parlé de Michel Lebris.
Alors, Michel Lebris, on peut le résumer rapidement. C'est une sorte de d'ogre de la littérature française, physiquement.
Il a
comme
une grosse barbe.
Physiquement, mais voilà, également aussi dans sa production. C'est quelqu'un qui a écrit beaucoup de romans, beaucoup de livres. C'est un très grand spécialiste de la littérature d'aventure.
Et de science-fiction, a priori.
C'est un des plus grands spécialistes de Robert Louis Stevenson. Notamment, c'est quelqu'un qui s'est beaucoup démené pour toute cette littérature là. Il a créé le festival Étonnant Voyageur à Saint-Malo, voilà. Que tu dois connaître.
Magnifique festival.
Voilà. Et c'est quelqu'un aussi qui a une vie tumultueuse aussi. Rafik, qui t'en a parlé un petit peu, je crois. On verra ça dans Beats. Mais
non, il s'est pas trop attardé. Avant que la caméra ne s'enclenche, il m'a parlé de son séjour en prison.
Oui, parce que ça a été un intellectuel de gauche à une époque aussi. Je crois qu'il a cofondé Libération, il me semble.
Oui, tout à fait. Ouais.
Voilà, et puis peu à peu, il s'est pris d'amour pour la littérature de genre, il s'est immergé là-dedans, et c'est quelqu'un, et Kong, son roman, est vraiment le reflet de ça, c'est quelqu'un qui a une conception très militante de ce qu'est le genre, notamment l'aventure, le genre en général, et qui a une détestation assez prononcée pour ce qu'est la littérature française, on va dire germanopratine, comme on dit, quoi. C'est-à-dire la littérature de Saint-Germain, même les trucs actuels.
Un intellectuel de gauche pour qui le mot populaire ne s'arrête pas de la rhétorique politique, si tu veux. Qui dit populaire dit aussi littérature populaire, dit aussi film populaire, et s'y intéresse comme de véritables objets d'étude. Donc c'est effectivement assez pas si fréquent.
Julien, je me tourne vers toi. Kong, toi, c'est un de tes films emblématiques.
Oui, mais je pense pas que je sois le seul, mais c'est vrai que ce que disait Rafik, ce qui est hallucinant, c'est que moi, je suis de la génération Star Wars, oui, et c'est vrai que même quand tu voyais le film après Star Wars, le film n'a jamais semblé aussi daté, mais je pense qu'il y a une cohérence incroyable dans le film, et qui est due effectivement, je pense, au parcours de Chutzak et Cooper, et à la radicalité, en fait, de l'approche de filmage de Kong. C'est-à-dire ce qui est intéressant et fascinant quand tu découvres a posteriori la vie de Chutzak et Cooper et que tu as vu Kong avant, c'est que tout ce passif en fait de documentariste n'est pas présent de façon très voyante en fait dans Kong. C'est-à-dire que Skull Island, c'est une pure création cinématographique. Ils sont pas allés tourner à perpète même des pelures ou des choses comme ça. C'est un univers qui existe complètement puis qui n'existe justement qui est un décor virtuel en fait et qui est aussi l'héritage de tout un tas de l'iconographie de la culture pop de l'époque.
Les deux films qui tournent en même temps sont
tu veux dire
les chasses du Kanzarov et King Kong. Voilà.
Et c'est Ernest Bischofsack uniquement les chasses du Kanzarov, mais effectivement il y a des passages aussi.
Mais c'est vrai que c'est deux films qui à eux seuls suffisent à comprendre l'intégralité de la culture pulp de l'époque, et qui dit culture pulp dit culture geek, donc ils sont vraiment à la source d'énormément de choses.
Et y a, moi je pensais là, Julien, quand tu parlais là, le roman, tous les passages sur Willis O'Brien, ça va te faire décoller, faut que tu lises ça. Parce on le montre à la tête de son atelier. Moi je connaissais pas ces choses-là, mais on le montre à la tête de son atelier. C'est un type complètement dingue, un Irlandais qui picolait du soir au matin, qui gueulait sur les gens, qui les insultait.
Il était ingérable, hein, ouais, et sa carrière a été sacrifiée en partie à cause de ça.
Totalement ingérable, et qui a une vie tragique aussi, moi je savais pas, et ça je crois que c'est hors champ dans le livre. Il en parle dans les annexes, Michel Lebris. C'est quelqu'un qui est rentré un soir chez lui et sa femme s'était suicidée, avait tué leurs deux enfants. C'est quelqu'un qui a eu une vie très extrême, quoi, et qui était totalement ingérable, mais qui était un génie et qui, sans lui, Chaussac et Cooper n'auraient jamais pu atteindre ce cœur noir du monde.
Je vous conseille d'ailleurs un livre de Steve Archer, en fait, je vais pas dire d'annerie parce que j'ai pas préparé ce petit bonus, mais je crois que c'est un animateur image par image, en fait, anglais, et qui est centré en fait sur Willis O'Brien et qui répertorie notamment tous les très 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 nombreux projets avortés de Willis O'Brien, dont certains sont totalement fantasmatoires, et notamment un film qui s'appelait War Eagle. Avec une peuplade qui ressemblait un petit peu à King Kong, hein. Il y avait une peuplade, la découverte d'un monde oublié qui n'était pas encore cartographié, avec des gars qui chevauchaient des aigles là-dedans. On repense encore une fois à Avatar, hein, finalement.
Et puis il y a Peter Jackson qui en a joué aussi dans cette trilogie.
Et qui se terminait, si mes souvenirs sont bons, au-dessus de New York. Donc c'est un combat dans les airs avec des machines de guerre monumentales, et donc ces hommes à dos d'aigle, en fait, qui devaient attaquer ces machines. Voilà, c'est un très beau bouquin avec une iconographie absolument fabuleuse.
Et Peter Jackson, auquel d'ailleurs Lebris dans ses annexes rend hommage.
Hommage, bien sûr. Et puis on en a parlé aussi. Et pour une raison toute simple, hein, mais on s'en doutait de toute façon, même avant d'avoir ce livre entre les mains, que Jackson avait fait ses devoirs. King Kong, c'est le film qui lui a fait aller dans la direction de sa carrière. Et on sait qu'il a passé sa vie à rechercher des tas de choses. Il a acheté les props. Il possède une des poupées originelles de Willis O'Brien. Il a été obsédé pendant des années par ces deux photos de scènes inédites, qui étaient la scène du pic, là, du puits, qu'il a d'ailleurs reconstitué avec son équipe de Weta pour un bonus de l'édition spéciale du King Kong de 1933. Et je recommande cette séquence-là. On peut se douter, du coup, qu'il a fait de son côté un travail d'enquête aussi sur Marianne Cooper et Chaussac. Et ce qu'il y a dans son film, dans sa version de King Kong, son film est un commentaire du film.
Il devait même y avoir fait héroïer, elle était d'accord, il lui avait expliqué tout le projet, et elle est décédée.
C'est elle qui devait dire le dernier dialogue d'ailleurs de King Kong, mais pour accompagner ce que disait Rafik, l'édition spéciale, en fait, chez Warner, hein, je crois, qui était sortie d'abord en zone 1, puis qui est sortie chez nous il y a 2 ans, en fait, un peu sous les radars, c'est dommage d'ailleurs, comporte un documentaire absolument monstrueux sur la conception de King Kong, mais aussi sur Chaussac et Cooper, dans lequel on peut voir des extraits des premiers films, des films de documentaires, notamment de Chaussac et Cooper.
J'ai oublié, mais oui. Non, mais enfin, par rapport au fait que le film de Peter Jackson est un commentaire du film original. Quand tu vois régulièrement sur Internet des gens qui se posent la question par rapport à des tas de scènes du film en disant mais qu'est-ce qu'on en a à foutre que le marin élise au cœur des ténèbres de Joseph Conrad, ça veut dire quoi, qu'est-ce que ça fout là, tu vois, et quelque part tout le film, toutes les critiques qui sont émises à l'encontre du film, elles touchent à ce point, c'est-à-dire elles touchent au fait que le film est en train de donner aux spectateurs des pistes pour retourner vers le film original. C'est pas tant un remake qu'une post-face, en fait.
Oui, c'est ça. Un commentaire.
C'est ça.
Ben, intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on trouve d'autre dans ce livre, à part l'origine de leur... de leur rencontre et
leurs aventures.
C'est toute leur vie.
Non,
mais t'as largement toute leur vie. C'est toute leur vie.
Parce que finalement, le tournage ne prend qu'une partie. Le tournage de King Kong lui-même ne prend qu'une petite partie.
Il y a Zaroff, il y a Kong, il y a Chang, il y a tout, quoi.
La fondation de la Paname, il y a les.
Oui,
les,
parce qu'il a participé à la fondation de la Paname aussi, mais rien de ses Cooper. Enfin, voilà.
Les films de John Ford. Enfin, voilà.
On peut pas tout résumer, mais on croise effectivement des gens comme Selznick, tous les gens de cette époque-là de Hollywood, quoi. Il y a de très belles belle page aussi sur la relation entre Feyre et Marianne C. Cooper, aussi leur relation un petit peu de presque amoureuse, mais aussi de Pygmalion, de ça, où ils se nourrissent l'un de l'autre. Enfin voilà, c'est un roman, on pourra en parler des heures, quoi, sans pouvoir l'épuiser. Et c'est surtout, moi, ce qui m'a frappé, en fait, c'est comment un Français, d'habitude, on est tout le temps en train de se plaindre, nous, les Français, de se dire que les grandes figures de notre culture populaire sont récupérées par Hollywood, notamment Jules Verne et compagnie. Et là, pour une fois, on a l'inverse, c'est-à-dire un Français qui récupère et investit totalement une grande figure moderne de la mythologie moderne américaine.
Et c'est... Oui, pardon, excuse-moi.
Et voilà, non,
d'autant
et je voulais.
Oui, dont on peut espérer que le roman sera traduit en anglais parce qu'il a intéressé tellement
monde. Mais si, il faudrait que Jackson lise ce roman. Je pense que s'il va y contacter le Brice, il va lui tomber dans les bras en pleurant, quoi.
Mais c'est pas la première fois, hein. Juste pour l'anecdote, il y avait en 76, je crois, il y avait King Kong Story qui était sorti, qui était le seul vrai bouquin making-of sur King Kong, avec même quelques analyses sur tout l'aspect sexuel. Bon, c'était un petit peu complaisant peut-être sur ce point-là.
Non, mais alors, je parlais d'œuvre, tu vois, parce que là, c'est un roman, hein, ça reste une œuvre littéraire, tu vois, et dans ce registre-là, c'est très rare, ça, tu vois, quand un Français fasse ça, parce qu'en général, les tenants de la culture française ont plutôt du mépris pour ce qui est la culture populaire américaine. Donc, c'est rare d'avoir fait ça et d'y avoir consacré une bonne partie de sa vie en faisant en abattant un travail impressionnant. C'est dans, de toute façon, bon, alors après, c'est pas très étonnant non plus. Hein, à la toute fin, il remercie énormément. Apparemment, il l'a beaucoup aidé, Kevin Brownlow. Mais voilà, c'est cette filiation-là. On voit à peu près où se situe le niveau d'ambition quand on voit apparaître un nom comme celui de Brownlow.
Bon, bah, ça donne envie hein, de lire. Julien, ça t'a donné envie de lire ce bouquin ?
Non, pas moyen. Trop.
Bon, d'accord. Pas de version livre audio, faudra peut-être que je la produise.
Il y a le Cinéfex sur Gardien de la Galaxie 2.
Score de James Newton Howard.
Eh ouais, parce que bon, c'est vrai que le score de Max Steiner de 33 est formidable, mais celui aussi de James Newton Howard du King Kong de 2005 dont vous avez parlé est très joli.
Il a été fait très vite en catastrophe pour remplacer le score de Howard Shore.
Ah oui, ça n'allait
j'aimerais
pas.
Bien écouter un jour.
Ça va pouvoir se trouver.
Howard Shore qui du coup apparaît dans le film un peu pour rien.
Non, mais... chef d'orchestre, oui.
Voilà, voilà les amis, merci pour ce bonus. Donc on retrouve Michel Lebris, son roman Kong chez Grasset,
voilà.
Que vous trouvez dans les meilleures librairies.
Et Beats sur YouTube.
Et Beats sur
épisode
YouTube, exactement,
Kong.
Épisode Kong. Très bien, merci les amis, et je vous dis à la prochaine fois.
Merci à toi, David.
Salut.
Ciao.
Salut.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.